Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023, il est 20h. Et comme tous les lundis à 7h, si on joue, la prolongation. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission sportive préférée du lundi soir. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ce soir, avec nous, avec moi, pour parler football. On l'a reconnu, bien sûr, son jingle habituel, fan de musique, mais pas que ça. Il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il est un grand connaisseur de ce qui se passe sur et en dehors du terrain et je suis sûr qu'il va encore nous régaler avec quelques bonnes news, quelques infos du monde du marketing et de tout ce qui tourne autour du rectangle vert. Je parle bien sûr de monsieur Alex Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Bonsoir à tous, salut Sam.
Bien.
Comme un lundi, il fait bon.
Bah,
et on prendra la direction de Barcelone tout à l'heure. La
Ah, parfait. À nos côtés, c'est devenu un régulier maintenant dans l'émission. Attendez, s'il y a bien un hymne que je me plais à jouer. Voilà, un petit peu pour le plaisir. Oh, PSG. Ouais, voilà, vous l'aurez compris, vous le savez, son club de cœur, c'est le même que le mien. Donc, je suis bien content d'avoir frère d'armes dans le studio ce soir. C'est l'ancien entraîneur de la section féminine de l'Union Saint-Gilloise. Il s'occupe actuellement du développement économique du Femina White Star. Il s'agit bien sûr de Thomas Otuchewski. Salut Thomas, comment vas-tu?
Salut. Très
bien. Écoute, si Blaise nous écoute, je suis sûr qu'il nous écoute, mais il va. On va le faire revenir bientôt pour pouvoir parler de. Il y a bientôt, ce n'est pas trop longtemps d'ailleurs, le Classico.
La future défaite de l'OM, oui, c'est pour bientôt.
C'est pour bientôt, hein, comme toujours. Alors aujourd'hui, on n'a pas de football de club, on en pleure. Ouais, c'est vrai, on en pleure quand il n'y a pas de...
On a eu le tirage au sort de la Coupe de Belgique.
On va en parler aussi.
C'est tout.
C'est déjà ça. On va parler de la trêve internationale, les qualifications à l'Euro qui battent leur plein avec des matchs passionnants et ou pas passionnants, mais enfin il y a des matchs et on va parler d'un petit peu de l'évolution de ce qui se passe au niveau des sélections puisque vous le savez le 14 juin prochain débutera l'Euro, le 14 juin le début, le 14 juillet la fin, peut-être un signe pour l'équipe de l'autre côté de la frontière ou d'outre-Quiévrin comme on dit. Et puis on parlera d'une équipe qui sera forcément à 7 euros mais heureusement pour eux ils n'ont pas à passer par les barrages, enfin par les qualifications tout court. C'est l'équipe d'Allemagne, une équipe d'Allemagne dont aucun d'entre nous n'a souvenir je pense d'avoir vu un niveau si faible sur la durée. Des défaites il y en a forcément de temps en temps, mais là ça devient inquiétant à tel point que les Allemands ont démis leur entraîneur, leur sélectionneur Hansi Flick. J'ai pas souvenir moi d'avoir vu un sélectionneur allemand se faire débarquer comme ça. Donc c'est Rudi Völler qui entre autres qui assurera l'intérim demain. Et on va parler un petit peu de l'Allemagne. On parlera donc ensuite on parlera Sportimize, minute Sportimize avec Alex. Tu nous dis on partira du Barça. On s'est pas concerté, mais je crois que j'ai une idée parce que j'ai vu passer un truc qui me paraissait assez malin au niveau marketing.
Tu l'as vu sur Sportimage cet après-midi?
Exactement, je l'ai vu sur Sportimage cet après-midi, je crois. Si vous aimez les petits bouts de rectangle vert, s'il s'agit bien de ça, eh ben vous apprendrez quelque chose tout à l'heure, c'est très intéressant. On parlera ensuite des transferts, un petit peu de ce qui s'est fait, un petit bilan mercato, puisque ça se termine un peu partout. Et puis on se projettera sur ce qui va se passer le week-end prochain et peut-être même début de semaine prochaine, puisqu'il y a déjà les Coupes d'Europe aussi qui démarrent la semaine prochaine. Personnellement, j'en suis ravi. Je pense qu'il est l'heure de démarrer, hein. Et comme toutes les semaines, on va démarrer avec notre nouvelle rubrique, celle du Belge de la semaine. Alors le Belge de la semaine, on va laisser commencer Thomas. Thomas, quel est ton Belge de la semaine?
Alors moi, mon Belge de la semaine, c'est Youri Tielemans. Parce que Youri Tielemans, il est arrivé en sélection. Et alors, ce qui est bien, c'est quand on arrive en sélection, on fait plein d'interviews au quotidien national, etc. Youri Tielemans nous a expliqué bon, qu'il était moyennement content après son transfert à Aston Villa, parce qu'après 4 journées, il ne jouait pas encore, il n'était pas encore titulaire. Donc il faut quand même rappeler que Youri Tielemans a été relégué avec Leicester,
c'est ça,
qu'il était titulaire indiscutable. Donc si Youri Tielemans était un joueur exceptionnel, il serait titulaire à Aston Villa. Il joue quand même sous les ordres d'un coach qui a redressé Aston Villa, qui a gagné 3 ou 4 Europa League. Donc peut-être que Youri Tielemans devrait écouter Unai Emery et que Youri Tielemans devrait peut-être se montrer un peu plus patient, être un peu moins égocentré, et peut-être que sa performance d'ailleurs en Azerbaïdjan aurait été meilleure. Mais ça dénote aussi du comportement de beaucoup de jeunes footballeurs, même s'il n'est plus non plus... Il n'a plus 21 ans. Il reste très jeune, hein, parce qu'il a commencé très tôt.
Ouais.
Mais ça montre aussi que les footballeurs, ben, ils doivent être patients. Au football, il y a 11 joueurs sur le terrain, pas 14. Il y a 11 titulaires et des remplaçants. Et que je suis sûr que s'il est si fort qu'il le pense, il sera titulaire à Aston Villa. Et on lui souhaite. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ses remarques un peu déplacées.
Et puis, comme tu le dis, s'il avait été si fort, alors c'est pas un sport individuel, mais quand on est titulaire dans une équipe comme celle de Leicester, qui était quand même en haut de l'affiche il y a peu de temps et qu'on trouve le moyen de descendre en Championship, on se regarde un peu dans un miroir et on prend un peu pour soi les erreurs qui ont été commises et les défaites subies. Alex, à qui
oui.
penses-tu? Quel est ton Belge de la semaine?
Eh bien, c'est Anthony Morris. Et là, tout le monde va se dire, tiens, Morris, c'est le gardien du Luxembourg. Et
oui.
Effectivement, c'est le gardien du Luxembourg, mais il est belge. Il est né en Belgique, il a fait toute sa formation, ses classes. Il a joué avec les équipes d'âge en Belgique aussi. Mais par une astuce UEFA, FIFA même, il a des origines luxembourgeoises et donc il peut jouer pour le Luxembourg. Donc ceci étant dit pour la partie administrative, le Luxembourg a quand même pris 10 sur 15 ici dans cette qualification et se retrouve ex aequo avec la Slovaquie, deuxième de son groupe derrière le Portugal qu'ils affrontent sous peu. Et je trouve ça une prestation assez exceptionnelle. Le Luxembourg a longtemps été considéré comme les îles Féroé, Malte,
ouais.
Liechtenstein, Andorre, comme une équipe d'empotés ou de nains. Et depuis quelques années, cette équipe réalise d'excellents résultats. Alors certes, ils ne vont pas gagner face au Portugal, et pire encore, ils se prennent des volées 5-0, mais les autres équipes n'ont pas forcément facile à déjouer le Luxembourg.
Absolument, et on le reverra tout à l'heure, notamment avec le système de qualification. Ils peuvent, alors certes, l'Euro a été étendu à 32 équipes, mais on pourrait très bien, une chance pour une équipe comme le Luxembourg de participer enfin à une phase finale de grande compétition.
Mais disons que même ce groupe, en théorie, peut le permettre.
Il y a le Portugal
qui est inaccessible, tout le monde sera d'accord. Et derrière, tu as la Slovaquie, tu as l'Islande, tu as la Bosnie-Herzégovine et le Liechtenstein. Bon. Ce sont des équipes éphémères. La Slovaquie, on l'a vu participer à une Coupe du Monde, on a vu pareil avec la Bosnie-Herzégovine, mais finalement, aujourd'hui, ça ne représente plus énormément. Et le Luxembourg, au drive, à l'enthousiasme et à l'envie, il grappille des points face à ces équipes.
n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Le Luxembourg d'Anthony Maurice. Donc Anthony Maurice, c'était ton Belge de la semaine. Eh bien moi, j'ai choisi Arthur Théat. Alors pour plusieurs raisons, le joueur du Stade Rennais était pressenti hein, pour partir. On avait longtemps évoqué son départ. Il y a même eu des, ça a été assez chaud, je crois, avec la Fiorentina dans les tout derniers moments du mercato. Il n'est pas parti. Il a peut-être été un peu déçu. Après, moi, j'ai l'impression qu'il était là-bas, qu'il était à Rennes déjà depuis très longtemps. En fait, je me suis rendu compte, ça fait qu'une seule saison qu'il est à Rennes, mais il s'est vraiment imposé comme un taulier. D'ailleurs, il s'impose très rapidement où qu'il aille, puisqu'il a commencé hyper vite avec l'équipe de Belgique. Il était sélectionné chez les espoirs. On l'a appelé pour combler le forfait de Jason Denayer et puis il est resté dans l'équipe depuis. Et puis je voulais le mettre en avant pour son sauvetage décisif dans les premières minutes du match où le gardien de but belge a repoussé une frappe, puis elle est revenue, elle a été refrappée par un adversaire et il s'est jeté en faisant vraiment un sauvetage magnifique qui aurait peut-être été sans conséquence, mais enfin quand on voit le match qu'a fait la Belgique, et on va bientôt en reparler, eh ben il a été très inspiré de venir sauver les fesses de son équipe en tout début de match.
Et n'oublions pas, en fait, il était dans l'académie du Standard, il a gentiment été mis à la porte. Il s'est retrouvé tout à fait de l'autre côté du pays, à Ostende, où il s'est directement imposé comme un des leaders de l'équipe en quelques matchs, malgré son jeune âge. Donc, big up et chapeau, parce que c'est pas simple d'avoir ce revers et d'en tirer aussi plus que le maximum par après aussi. Et donc, comme tu disais, il est pressenti dans d'autres plus grandes équipes que Rennes, même si Rennes est déjà bien installé dans le sub-top français depuis quelques années. Mais aller jouer à la Fiorentina en Espagne ou en Italie, c'est quand même encore autre chose.
Ouais, et puis il est tout jeune, je crois qu'il a, bah, il doit avoir 23 ans, 22-23 ans, donc c'est bravo à lui. et ben voilà pour nos Belges de la semaine. Ouais, on était sur les Belges de la semaine, on va rester encore plus belge que... C'était le Devil Time. On va parler de... Ah oui, ça c'était le générique de...
Kevin, wat moet ik doen? Volgens het boekje moet je daar zijn.
Ah, oké, sorry.
Ja?
Et voilà, c'était le petit jingle de l'an passé pour la Coupe du Monde, qui n'a pas porté franchement chance au Diable Rouge. Et donc, on va parler des qualifications à l'Euro 2024. Et on va débuter, bien sûr, par ce match remporté. Je vais pas faire je vais pas être caustique, mais enfin, remporté avec brio 0-1 sur la pelouse de l'Azerbaïdjan. Comme j'en parlais avec Blaise, on disait, c'est vrai qu'un, pour le téléspectateur, en plus, un match un samedi à 15h en Azerbaïdjan, c'est vrai que c'était pas le plus vendeur, et puis c'était pas un très grand match.
Et pour les joueurs, c'est aussi un déplacement particulier, hein. Les joueurs, c'est très loin, en fait. Les gens se rendent pas compte parce qu'on se dit, c'est la qualification championnat européen.
Voilà, t'as l'idée que c'est en Europe, mais finalement.
C'est très très loin.
Ouais, ouais, ça fait un très gros.
Je crois que c'est 6 à 8 heures de vol, si je me trompe pas. C'est un environnement qui est complètement différent. Bon, après, ça enlève à rien la prestation plus que médiocre. Et il va falloir que l'équipe se remette sérieusement à jouer pour pouvoir espérer faire quelque chose à l'Euro. Peut-être même passer les poules, parce que il va falloir que Lukaku redevienne Lukaku. À Rome, quand De Bruyne sera là, on peut penser que l'animation au milieu sera meilleure. Mais c'est une équipe qui a, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a encore les interrogations autour de la défense, où on voit encore Vertonghen, mais Vertonghen, dans un an, il aura un an de plus. et à son âge, un an de plus, ça compte pour jouer contre les meilleures équipes.
Pour le moment, la défense alignée, c'était donc Arthur Théat, Vertonghen, Woodfast et Timothy Castagne. Effectivement, et pour l'instant, Vertonghen, il est assez irréprochable, et avec Anderlecht et avec les Diables. Mais je te rejoins, on va pas dire que les années comptent double à cet âge-là, mais enfin, et on peut avoir une baisse de régime qui s'avère fatale assez rapidement, en tout cas. Un peu.
Après, pour rebondir sur ce que disait Thomas, si tu passes pas les poules, faut arrêter.
Oui.
Il y a 24 équipes, les meilleurs troisièmes sont qualifiés également. Alors là, ou bien t'as la poisse et tu tombes dans un groupe de la mort, même si on ne sait pas encore qui sera qualifié ou pas, je pense que franchement, ce championnat d'Europe se décrédibilise et perd en qualité aussi. 16 équipes, tu avais déjà 2-3 petits poussets. Ici, à 24, tu te retrouves avec des nations qui n'ont rien à y faire.
Mais c'est vrai que dans le passé, le championnat d'Europe, on parlait d'une des compétitions les plus dures à gagner. Mmh. Je me souviens quand l'Espagne gagne son deuxième championnat d'Europe, si les gens se souviennent du parcours de l'Espagne, l'Espagne est à 30 minutes de se faire éliminer par les Croates. C'était très dur. C'est vrai qu'aujourd'hui, OK, mais on voit aussi que les petites nations, on parlait avec le Luxembourg, les petites nations sont beaucoup toujours plus difficiles à manœuvrer parce qu'il y a des bons techniciens, il y a des bons joueurs qui maintenant jouent dans les championnats européen, donc attention. Alors évidemment, si Doku avec Guardiola devient un autre joueur, De Bruyne, Lukaku, même Trossard à Arsenal, hein, on n'est pas à l'abri de voir Trossard exploser.
Ouais, le milieu de terrain, c'était Onana, Tielemans et Trossard. Il manque clairement Kevin De Bruyne, mais lui, son fauteuil l'attend. Mais est-ce que l'animation.
Son fauteuil roulant.
Qu'il est dur. Ouais, est-ce que l'équipe, le milieu de terrain qui a été concocté par Domenico Tedesco vous a convaincu. C'était le meilleur qu'on pouvait aligner en l'absence de Bruyne.
Mais moi, je suis convaincu par rien pour l'instant. Pour la bonne et simple raison que tu es en pleine construction ou reconstruction. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, même en jouant très mal, tu prends tes points, tu fais ce que tu dois faire. Et ce n'est pas maintenant, début septembre 2023, que tu dois chauffer tout le monde pour l'Euro 2024 qui aura lieu en juin. Ceci étant dit, laissons-les tranquillou construire leur équipe, parfaire leur stratégie, leur tactique, tout leur jeu en fait, et toutes les animations offensives comme défensives. Et ne mettons pas la pression, parce que finalement, c'est sous la pression que la Belgique a à chaque fois cédé dans les matchs importants et capitaux lors des précédentes éditions des Coupes du Monde et des Euros. Donc, laissons-les faire. Tedesco, c'est ce qu'il fait. Pour lui, c'est un Euro très particulier parce que c'est en Allemagne où est-ce qu'il a été coach, mais où est-ce qu'il a grandi aussi. Donc, laissons-les faire, mettons pas la pression. Je pense que l'équipe répondra présent. Et quand je dis répondre présent, pour terminer dans les, au moins en quart de finale, à ce moment-là.
Ouais, dans les 8 meilleures nations, ce serait une bonne chose, un but.
Mais tout ça pour dire, tu as tous les matchs maintenant, tu peux tester. Lavia va, d'après moi aussi, recevoir des minutes de jeu à un moment ou à un autre, vu son transfert à Chelsea. Tu as d'autres joueurs qui peuvent encore montrer le bout de leur nez d'ici.
Ouais, mais qui n'est pas à Chelsea de nos jours?
D'ici là. C'est vrai. Tout le monde. 36 joueurs.
Tu es quand même le transfert belge le plus cher du mercato. J'imagine qu'on ne regarde pas tout à fait à côté chez les Diables non plus. Après, qui sait, il peut peut-être prouver des choses. Et il y a un tas de joueurs. En Belgique, il y a toujours cette hiérarchie qui doit ou qui devrait être respectée. Tandis que dans les autres nations, parfois, t'as des surprises et t'as des joueurs qui débarquent, comme le petit jeune en Espagne qui a 16 ans et quelques jours. Il marque son but ce week-end aussi. Donc en Belgique, tu peux. Et j'espère qu'avec Tedesco, tu n'as pas cette rigidité de Martinez. Qui garde.
Pour l'instant, Tedesco ne change pas trop. Ça, après la Coupe du Monde, il était obligé de faire un grand lifting parce que bon, les retraites, les états d'âme, parce que c'est quand même catastrophique, même les déclarations pendant la Coupe du Monde. Mais depuis, sa sélection ne change pas beaucoup. Et par exemple, on aurait pu penser voir De Kuyper. Moi, je suis toujours étonné. Oui, ok, c'est l'attaquant de la Gantoise, etc. Mais bon.
Ah, Kuyper.
Oui, Kuyper, pardon. Ouais. Et bon. Il aurait mérité d'être quand même dans la sélection, qu'on lui laisse sa chance. Parce qu'il devrait. Enfin, c'est, on va le dire, pour les grands joueurs, cette fenêtre internationale, c'est peut-être la pire. On vient de redémarrer la saison. Ouais. Les joueurs veulent jouer en club, s'installer avec les nouveaux coachs, nouvelle dynamique, nouvelle saison. Et ouais, en sélection, parfois, c'est aussi.
Oui, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas bien compte en Belgique parce qu'on reprend un petit peu plus tôt. Donc ça fait déjà un bon mois et demi, mais quand on voit certains autres championnats qui ont repris il y a. 3 semaines, vous venez d'arriver dans certains joueurs viennent simplement d'être transférés puisque le marché des transferts s'est quasiment partout arrêté le 31 août et puis vous êtes directement appelé en sélection, vous n'avez pas le temps de trouver vos marques avec votre club et puis la semaine prochaine il y aura déjà les coupes d'Europe donc si vous êtes pas
tout va très vite,
on va pas, vous venez d'en parler, on va parler d'un autre joueur, tout va très vite en Espagne, notamment pour ce jeune Lamine Yamal. Effectivement, il a 16 ans. Il a été appelé en sélection, il a marqué. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon alors c'est la Géorgie qui a fait les frais de la grande Espagne, 1-7, triplé de Morata, Olmo, Nico Williams et donc Lamine Yamal. Est-ce que c'est une équipe, alors ce ne sont pas les mêmes caractéristiques, mais loin de là, mais c'est une équipe qui sait se renouveler, l'Espagne. On a eu une période de gloire incroyable, un petit passage de transition. Là, on a l'impression qu'il y a peut-être une... avec cette charnière centrale française, ouais. Laporte, le Normand. En tout cas, on dirait peut-être que ce score de 1-7 contre la Géorgie est un arbre qui cache la forêt, mais avec le coach de la Fuente Castillo.
Il faut aller les mettre, les 7 buts. Hein.
Ouais, de toute façon.
La Géorgie n'est pas si dégueulasse non plus. Il y a de jeunes talents en Géorgie qui...
Le joueur de Naples, par exemple.
Voilà, je te laisse dire son nom d'ailleurs.
Farage Keller. J'ai le nom sous les yeux.
Mais attention, la génération qui suit en Géorgie est très,
très
talentueuse.
Très bon. Tout à fait.
Et c'est entraîné par Willy Sagnol, pas le premier manchot non plus. Donc tu as quand même, tu dois aller mettre tes 7 buts en Géorgie aussi. Donc ça veut dire que tu as une abnégation, tu as envie et tu as ce respect du travail aussi. Donc
après
on ne voit pas dans deux équipes. Hein.
Comment le coach sera traité avec les remous à la fédération, parce qu'on peut y aller ça.
Oui, on peut dire un mot,
il démissionnera aujourd'hui. Non, mais à voir, parce qu'il y a eu aussi des difficultés, hein, ce coach en début de parcours avec la défaite contre l'Écosse. Moi, je pense que c'est une équipe qui, auparavant... Parce qu'elle a quand même fait des bons résultats. Hein, on oublie, contre l'Italie en demi-finale de l'Euro, l'Euro remporté contre l'Italie. Bon, c'est pas un miracle que l'Italie passe, mais l'Espagne ne démérite pas, alors qu'on ne mettait absolument pas l'Espagne dans les favoris. C'est une équipe qui, profondément, depuis qu'elle a fait justement ce truc improbable de gagner 2 euros... plus une Coupe du Monde et tout ça sur 6 ans, elle a une vraie identité de jeu, quoi. C'est pas toujours chatoyant, mais alors pour prendre le ballon aux Espagnols, il faut se lever tôt, parce qu'ils ont tous une base technique qui est quand même assez impressionnante. Peut-être que dans les dernières années, il y a peut-être manqué aussi ce talent devant, parce que quand ils ont gagné, on oublie, mais il y avait Torres, il y avait Villa, même Fabregas, quand il gagne l'Euro...
Tu te retrouves avec Morata.
Oui, voilà, Morata, c'est bien, mais...
Et le grand Asensio.
Le grand Asensio.
Non, mais c'est pas assez. Mais après, l'Espagne a eu ce que toute équipe a eu. Tu as un passage à vide après une victoire en Coupe du Monde ou un Euro réussi.
Mais là, c'était même plus.
Regarde la France. J'étais le premier surpris qu'ils se fassent éliminer ou qu'ils perdent cette Coupe du Monde aussi. Donc,
Parce que l'Espagne, quand ils gagnent tout, pour moi, on parle peut-être d'une des plus grandes sélections de l'histoire du foot. Mais la longévité est dingue. Les mecs, rien ne pouvait les toucher. C'est l'Euro, Coupe du Monde, Euro.
Ouais, c'est
et quand on se souvient de la Coupe du Monde, c'était contre le Paraguay, Casillas sauve un penalty, la demi-finale pas évident, la finale. Van Bommel et De Jong doivent se faire expulser, mais c'est quand même. Ils n'ont jamais eu le chemin facile. Et les matchs contre le Portugal, à chaque fois, des séances de tir au but ou le 1-0, franchement.
Non, c'est.
Faire mieux, ça sera difficile, même pour n'importe quel pays.
Oui, un tel enchaînement, c'est compliqué. Un mot de l'équipe de France qui l'a emporté face à l'Irlande. C'était jeudi, 2-0.
Tranquille.
Thomas, tranquille.
Oui, non, c'était pas... Bon, la France a tout gagné pour l'instant. Ils sont quasi qualifiés. C'est intéressant de voir si la Grèce ou les Pays-Bas va se placer deuxième dans ce groupe. C'est peut-être le truc intéressant. Maintenant, voilà, il y a un facteur X dans cette équipe. Et si ce facteur X est en forme, c'est une équipe exceptionnelle. À voir aussi, parce qu'il y a un truc qui va être intéressant, c'est de voir... En fait, c'est voir le travail que va faire Luis Enrique avec l'attaque Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, parce que c'est probablement l'attaque qui pourrait être alignée à l'Euro.
Ouais.
Et donc, c'est très intéressant. On a déjà vu des grandes sélections aussi qui se basaient sur un club. La Grande Espagne, c'est basé sur le Grand Barça.
C'est ça, le milieu du Barça.
L'Italie fonctionne quand la Juve fonctionne, historiquement. Ouais. Pareil pour l'Allemagne, il fallait un grand Bayern.
Tu parlais de l'Italie, on va plonger tout de suite dans le groupe de l'Italie. Mais je voudrais parler de l'Angleterre. L'Angleterre qui avait gagné 4 de ses matchs, qui a fait match nul face à l'Ukraine. Est-ce que l'Angleterre a encaissé un but, vous avez peut-être vu tourner sur toutes les...
Harry Maguire,
dont on a dit, regardez le pauvre, il était en train de marquer son propre coéquipier. On est très dur avec ce garçon, je pense que le montant de son transfert l'a plombé un peu, il n'est pas exceptionnel non plus, c'est un joueur, je pense que c'est toi qui l'avais dit il y a quelques temps, c'est un joueur qui est un bon défenseur, dans une équipe qui subit, mais il peut pas laisser de place du tout dans son dos. Bon là, c'est pas du tout sur un ballon dans son dos qu'ils ont pris un but, mais avec Manchester United, c'est sans doute un peu trop.
Il a subi ce que subissent les Anglais qui font une bonne saison en club, c'est-à-dire que comme il faut absolument les garder en première ligue, les mecs d'un seul coup, ils ont un prix complètement dément. Bah oui, McGuire, c'est pas un top 5, c'est pas un top 6. Angleterre, à Leicester, ça l'était pas. Et ça allait pas le devenir à Manchester, ça l'est pas. Mais c'est vrai qu'au début, c'est rigolo, les blagues sur les boulettes et tout. Mais alors pour lui, parce que les joueurs de foot sont pas,
blindés non plus,
du monde, etc. Ils sont sur leur téléphone, ils voient les choses. Pour lui, ça doit commencer à être un peu pénible. Mais c'est aussi à Southgate de le protéger, quoi. Ok, je veux bien qu'il veuille l'emmener, mais t'es pas. Tu sais que le mec traverse une passe compliquée, tu le mets pas titulaire. Mais lui aussi aurait dû peut-être gérer sa carrière différemment en quittant Manchester United.
Ça peut avoir l'effet inverse aussi. Il joue bien en sélection, il reprend de la confiance. Là, c'est effectivement le contraire, mais effectivement, ça pèse. Une fois, d'un point de vue hebdomadaire, tu as des blagues sur Maguire. Ouais, à la fin, ça pèse et il aura lui-même eu un stress. Sur le terrain, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va arriver, que ça va lui monter au cerveau.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais plus. J'avais vu encore une petite blague vidéo où il entrait sur le terrain et les adversaires exultaient. Ça y est, ils ont fait entrer Maguire. C'est bon.
Même mentalement, pour ça, il faut être prêt. Hein.
Ouais.
Si on l'est pas.
Ça me fait penser un peu. J'en avais parlé. À 15 jours, 3 semaines à Peter Crouch, qui a eu un début de carrière, qui a eu un moment où c'était un peu la risée de tout le monde parce c'est vrai qu'il semblait parfois un peu maladroit. Alors pour un attaquant, ça cause moins de difficultés, mais disons qu'un attaquant peut en louper 3-4. Si son coéquipier en met un, l'équipe peut quand même gagner. Si vous êtes défenseur central et que vous faites deux boulettes, généralement, vous faites plonger votre équipe.
À chaque position, ça te monte au cerveau. Regarde Yaremchuk cette année. Dans un passé un peu plus lointain, tu avais Tristan Persman, mais tu avais tout le stade d'Anderlecht, il y a 15 ans, je pense, qui retenait son souffle, tu le sentais dans le stade quand il y avait une passe en retrait vers Persman et tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il va faire, il va trébucher sur le ballon, il va shooter à côté, il va la dégager sur un adversaire, tu le sens, tu dois être armé pour faire face et c'est la même chose avec des Maguire, des Crouch, des joueurs comme ça.
Crouch avait cet avantage, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux évidemment, n'importe qui peut prendre son téléphone et faire des blagues. Donc,
c'est ça, le bashing de Harry Maguire. L'Italie, justement. Alors, l'Italie, est-ce que vous avez quelque chose à en dire?
J'ai l'impression qu'il n'y a aucune grande nation qui est au rendez-vous, à part l'Espagne peut-être. Donc.
Il a du mal à dire la France. Mais c'est
t'es pas au rendez-vous. T'es pas au rendez-vous. Tu prends des points.
Oh, bah, on a combien? 15?
15, 15.
Il n'y a rien de fulgurant. Oui, non, d'accord, mais juste dans le jeu, tu le dis toi-même. Voilà.
Oui, ben, c'est dédié des champs. Il n'y aura jamais rien dans le jeu. C'est comme ça. C'est la vie. Moi aussi, j'ai fait mon deuil. Je ne suis pas content de la façon dont on a gagné la Coupe du Monde, mais on l'a gagné. Il faut se rendre à l'évidence. Mais l'Italie, bon, parce qu'on sait que Mancini est parti pour le projet sportif.
Ouais, très beau projet sportif.
Ce qui pose des questions, parce que autant des mecs qui partent. En club qui part pour l'Arabie Saoudite, bon.
Un âge avancé.
Mais ouais.
Mais il y a ça aussi, c'est vrai.
Mais lâcher son pays, j'avoue que. Pour quelque chose qui ne va pas durer non plus 10 ans, c'est compliqué, quoi. On va se souvenir de Mancini comme le mec qui a quitté la sélection nationale pour aller coacher l'Arabie Saoudite. Enfin bon. Mais l'Italie, il va falloir qu'il se reprenne parce que deux Coupes du Monde manquées. Bon, il y a eu. Heureusement qu'ils ont gagné l'Euro entre temps, mais là, c'est. Il va falloir qu'ils gagnent absolument cette semaine parce que sinon, ça va ils commencent à hypothéquer leurs chances.
Et puis, on ne voit pas de grande génération poindre, je dirais. Et puis, il y a des joueurs qui s'éteignent. On va en parler tout à l'heure, je pense, de Marco Verratti qui n'a pas été appelé, qui va sans doute dire adieu au très haut niveau.
Mais après, vu le groupe et vu les circonstances, est-ce que ce n'est pas mieux pour lui de partir, justement? Tu fais une entame pourrie, t'as raté la Coupe du Monde avant, t'as quand même un tas de soucis, et là t'as un projet qui va te rapporter je ne sais pas combien.
La Mancini, ouais.
Oui, j'entends bien, mais pour moi c'est le passage, Enfin, tu es quand même coach de ton pays, c'est quand même pas rien. Symboliquement, oui. Ça doit pas être juste, oui, j'ai juste quitté la sélection nationale de mon pays. Oui,
et puis à la différence d'un joueur qui peut penser que le train passera pas deux fois, et à juste titre, ils ont l'âge de leurs artères. Une fois qu'il est plus joueur de foot, il est plus joueur de foot. Un coach, bon, il est peut-être moins fin, moins alerte sur ses schémas tactiques à 55, mais enfin, il peut peut-être espérer pouvoir ou alors il sait déjà lui-même que ça va pas durer très longtemps, le mirage saoudien, et que s'il prend pas ses gros millions maintenant, ce sera...
Le mirage saoudien va pas durer très longtemps, certes, donc il prend ce qu'il a à prendre, il prend ce qu'il sait prendre, et je pense qu'après il veut une vie un peu paisible.
Ouais, après ça va être compliqué en tout cas de revenir dans un... peut-être...
Non, je pense pas. Franchement, pour un entraîneur, c'est encore plus facile que pour un joueur. Ouais. Mais, oui, bien sûr.
En Italie, en tout cas, où je crois que ça a été pris avec un certain... Enfin, un petit peu comme Thomas, c'est-à-dire que les supporters... comprennent assez mal, enfin ils comprennent très bien les raisons qui le poussent à aller en Arabie Saoudite, mais c'est vrai que le timing est un petit peu étonnant, c'est sorti un peu du chapeau, il était 10 jours avant, il n'était pas question qu'il y aille.
Et surtout que Buffon était venu aussi pour lui un petit peu dans ce rôle de team manager, donc oui, ça pose question, mais... le train passe pas deux fois, mais après pour un entraîneur, Laszlo Bologna le prouve, l'âge... Mais
Non,
il est passé partout et n'importe quoi. Partout. Mais là, avec Metz, il réussit une très belle entame de la Ligue 1.
Encore une fois, c'est pas ça. Mais c'est vraiment le truc, quitter son pays, quitter son club, je comprendrais.
Les matchs de cette semaine, donc toujours dans les qualifications à l'Euro. On a demain soir le Belgique-Estonie. Ça devrait être, c'est du même acabit que Azerbaïdjan. Normalement, c'est
plus facile.
C'est encore plus facile. C'est à domicile.
Et en Estonie, un team manager justement qui et une fédération qui remplissent très mal les notes sur les adversaires. Donc avec ils ont joué contre la Suède ce week-end, et j'ai cru comprendre que dans les présentations officielles, il y avait quand même tous les joueurs suédois, le nom, la photo, les joueurs ne correspondaient pas du tout. Donc il y a un petit amateurisme.
Peut-être qu'ils vont penser que Lukaku joue dans les buts.
C'est ça.
Ah, peut-être une possibilité.
Peut-être qu'ils vont penser qu'ils jouent avant-centre.
Je ne sais pas s'ils vont réussir à remplir le stade, la Fédé, mais... Bon, ils vont réussir avec des invitations toujours, mais c'est fou. Ouais, là, franchement, on pourrait... Vivement le retour des clubs.
Ouais.
Et de la Ligue des Champions.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va faire une pause musicale pour une fois. On a un petit peu de temps. Et on va écouter ce qui est très certainement largement la... La meilleure chanson de foot du monde. En tout cas, c'est celle qui a été votée meilleure chanson de foot du monde par On joue la prolongation.
Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suárez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Goals, but the strongest of them all. Zinedine Zidane. Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Aguero Raul, Casillas Cavani, Benzema Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo Romario Rivaldo Robinho Ramirez Kaká, Falcao Frank Ribery, Pirlo Cahill Company, but the strongest of them all.
Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Platini, Best, Child, Cruyff, Baggio, Diego Armando Maradona, Pelé.
Une chanson qui n'a pas fait l'unanimité dans le studio, je vous le cache pas.
Mais... Je m'attendais à ce que tu nous mettes I Will Survive rapport à France 98, mais j'aurais préféré finalement.
Bon, écoute, c'est noté pour la prochaine fois, je le ferai, mais uniquement pour ton plaisir.
Tiens au mot. C'était à ce moment-là aussi le goal tune de Bruges, ce qui me rappelle de bons souvenirs de mon enfance.
Alors si on peut faire plaisir à tout le monde... J'y manquerai pas. Avant de passer à un autre dossier, à la Minute Sport Image, j'aimerais un instant qu'on s'arrête sur une équipe qui disputera l'Euro, mais qui n'a pas besoin de jouer les qualifications. L'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, là, ça devient problématique. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un fils qui est passionné de football, qui a maintenant 11 ans. Et lorsqu'on parle des grandes nations de football et que je lui raconte un peu l'histoire du football, il est très intéressé par le fait de savoir quelle équipe a le plus d'étoiles sur son maillot. Quand je lui ai dit l'Allemagne, il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit l'Allemagne. Je dis l'Allemagne quoi. Il dit mais l'Allemagne c'est des... Bon, il n'avait pas dit des nuls, mais enfin c'est moyen. Je dis non mais... Et puis j'ai réalisé qu'il était né en 2012 et qu'effectivement ses premiers souvenirs conscients de football, bah, ça colle pas vraiment avec la période de gloire du football allemand qui a gagné donc la Coupe du Monde en 2014 pour la dernière fois. Et qui traversent vraiment une passe très très compliquée. Ils ont perdu, on le rappelle, 1-4 face au Japon, ce qui a entraîné le renvoi de Hansi Flick dans la foulée.
Toi, tu parles à ton fils de l'Allemagne des bagnoles, de l'industrie, l'Allemagne quoi.
L'Allemagne quoi.
L'Allemagne, mais là, l'Allemagne depuis la fin du Joachim Löw, c'est l'Allemagne du quinoa, des gentils garçons.
C'est ça.
C'est un peu l'Allemagne qui rigole, quoi. Mais c'est...
Et c'est plus l'Allemagne de Gary Lineker, celle qui en joue à 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ah
ouais,
là, c'est
mais
plus
y a
du
aucun
tout.
Aucun caractère dans cette équipe. Il n'y a rien. Enfin, si on se souvient de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, là, contre. Bon, il y a Neuer, il y a Thomas Müller, il y a Miroslav Klose, il y a Hummels, il y a Boateng. Il y a
t'avais ce match contre le Brésil qui reste
ouais.
Top 3 de tous les moments football les plus hallucinants.
C'était même malaisant à un moment. Je me souviens dans mon canapé, j'étais mal à l'aise.
Ouais, c'est vrai que.
C'était une mise à mort.
Claquer le Brésil comme ça chez lui.
Mais c'est... ça, c'était l'Allemagne. Ils ont le Brésil chez eux, ils auraient pu s'arrêter à 3-0. Ben non, laisse tomber, on va les foutre sous terre.
T'en as mis 5 à la mi-temps, quoi.
Ça
un petit quart d'heure, même pas.
Ça me rappelle, je sais pas pourquoi, c'est tombé dans mon feed aujourd'hui. Il y avait j'ai vu lorsqu'il y a eu le match de l'un des nombreux matchs jubilés de Johan Cruyff. L'Ajax avait reçu le Bayern de Munich et il racontait, il dit, ouais, le Bayern est arrivé comme si c'était une finale de Coupe des Champions et nous on était venus tranquilles. Bah, total, le Bayern en a mis 8-0 à l'Ajax pour le match de jubilé de Johan Cruyff. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Et effectivement, ça c'est l'Allemagne qui le fait pas dans le détail. Et quand il faut marquer le but, il faut le marquer. Et là, ça devient compliqué.
Plus sérieusement, il y a 10 ans, mais c'est après en fait la victoire espagnole. Il y a eu un gros tournant dans la formation allemande, c'est qu'on a voulu faire que des bons et des beaux joueurs de foot. Et j'insiste sur le beau joueur de foot. Ben, en Allemagne aujourd'hui, il n'y a plus de numéro 9. Alors que le numéro 9 en Allemagne, c'était un truc, quoi.
Ouais.
Il y a eu des 9, mais
t'as raison, c'était pas des beaux joueurs nécessairement. Mais
t'avais des défenseurs hyper rugueux, t'avais des mecs comme Oliver Kahn. Mais tout ça, en fait, a complètement disparu parce qu'on veut une sélection lisse.
Des beaux techniciens,
ouais,
des beaux.
C'est intéressant que tu dis ça parce que justement, je reviens à chaque fois avec mon exemple du Portugal qui avait foiré sa Coupe du Monde 98 tout en organisant l'Euro 2024 par après. Là, il y a vraiment eu un travail de fond dans la formation, plus encore dans les stades, dans tout ce qui est club et réforme de championnat. Mais là, l'Allemagne, c'est assez surprenant en connaissant leur Krudlichkeit, comme ils le disent, de justement faire une erreur aussi capitale. Pour leurs footballeurs, quand la force du pays depuis des décennies était cette rage de vaincre. même si, on se souvient, en 98-2000, c'était une catastrophe similaire.
Ouais, ouais, mais... c'était spontané, c'était ponctuel.
Et puis, c'était quand c'était une catastrophe, c'était quart de finale de Coupe du Monde, quand même. C'est-à-dire qu'ils ont fait 94, ils se font éliminer par la Bulgarie.
Ils se font éliminer par la Croatie,
quart de finale, voilà.
Mais l'Euro 2000, l'Euro 96, ils le gagnent, donc j'ai pas envie de calculer ça non plus.
Ouais.
Mais en France, c'était pas foudre de guerre. Ils sortent quand même avec une certaine honte. Et
mais bon, c'était
je pense que c'était la Croatie. Mais après, l'Euro 2000, t'es dans un groupe avec la Roumanie, l'Angleterre et passez-moi le quatrième. Ils se font éliminer.
Mais c'est un pays qui. En fait, c'est une équipe sélection nationale qui ne ressemble pas à son pays, en fait. Un peu.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça. Les forces du football allemand qui ont toujours été. C'est vrai, les mêmes, les tueurs devant le but, on met le pied quand il faut le mettre, et même si on joue pas bien, même si on fait pas du beau football, au final, c'est le résultat.
Et les leaders de cette équipe aujourd'hui, alors c'est un très bon joueur, hein, mais en Allemagne, il est très décrit en ce moment, c'est Joshua Kimmich. Je crois qu'on regardait devant, c'était Gnabry, Sané, Emre Can. Attention, c'est tous des très bons joueurs. Hein.
T'as pas le 9. Le 9, c'est Füllkrug de Brême.
Oui.
Mais t'as pas cet attaquant comme Klaus, comme Bierhoff, comme Klinsmann, qui avait avant les vrais tueurs.
Oui, mais il y a pas de caractère.
Après, ce qui est frappant, c'est Hansi Flick se fait mettre à la porte.
C'est Kai Havertz qui joue avant-centre.
C'est voilà. Toujours pas un avant-centre.
Non, c'est ça.
C'est pas un numéro 9. C'est le symbole de cette nouvelle Allemagne. Bah, franchement, on pourrait pas faire mieux. Peut-être Mario Götze, mais il a marqué le but en finale de Coupe du Monde. Donc, bon.
Il est excusé, mais c'est vrai que Kai Havertz, c'est vraiment le symbole. C'est-à-dire que c'est un beau joueur technique, mais on veut un numéro 9 qui plante.
Qui rencontre des difficultés avec Arteta. Oui. Très bizarrement.
Ouais.
Parce que Arteta, il a aussi cette mentalité. C'est un jeune coach qui veut tout gagner. Bah ouais, bah Avert-moi, moi je veux jouer au milieu. Bah non, toujours le coach te dira de jouer. C'est triste parce qu'en fait, en plus, pour avoir une grande compétition et des grands matchs, l'Allemagne, c'est des matchs historiques. Hein. C'est Séville, la mise à mort du Brésil. Franchement,
c'est vrai que sans l'Allemagne, c'est pas la même chose. Rendez-nous nos Allemands.
Après, qui sait, parce que comme ici, Flick se fait mettre à la porte, c'est quand même le premier. Et du coup, j'ai fait quelques recherches. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a eu un entraîneur en Allemagne qui a été coach, c'est Sepp Herberger. Il a été coach de 1936 à 1964.
Ah ouais.
Donc c'est quand même une sacrée longévité pour un entraîneur tête d'une superpuissance.
Victoire en Coupe du Monde 54, le miracle de Berne. Et c'est lui qui avait dit, le football, on peut jamais savoir tellement. Il dit parce que en football, le ballon est rond et il roule. Et voilà. Et il peut se passer effectivement n'importe quoi. Mais c'était un entraîneur qui était charismatique.
Il peut passer n'importe quoi maintenant aussi. L'Allemagne peut peut-être retrouver ses valeurs d'envie, de hargne pour son propre tournoi et peut-être surprendre tout le monde. Allez savoir.
C'est un petit. Vous mettriez une pièce sur Nagelsmann. C'est celui qui a le.
Alors, je pense pas que ce soit un coach de sélection.
Je sais pas non plus.
Mais après, Luis Enrique, je ne pensais pas que c'était un coach de sélection non plus. Nagelsmann, c'est quand même quelqu'un qui veut imposer ses idées. Ça prend du temps tactiquement. Il est quand même hyper minutieux, exigeant. Ce n'est pas passé au Bayern. Il ne faut pas négliger le lien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour avoir une Allemagne qui marche, il faut un Bayern qui fonctionne.
Alors, est-ce qu'ils vont aller chercher du côté d'un étranger ou alors de quelqu'un...
Tedesco.
Quelqu'un auquel on ne pense pas du tout.
Tous les grands coachs allemands, pour l'instant, sont
sous contrat.
Sous contrat, il n'y a que lui, mais parce que Klopp le fera un jour, je pense. Mais
après, oui, tu dois pas forcément prendre un grand nom. Je me souviens à l'époque, tu as Michael Skib qui avait repris pour cette période justement pas terrible. Il venait de Dortmund, il n'était pas exceptionnellement.
Joachim Blow, quand il prend l'équipe, c'est pas non plus.
C'est, c'est
pas une rockstar. Hein. Bon, non, il a quand même gagné une Coupe du Monde.
C'était l'adjoint de Jürgen, de Clincy. Écoutez, on a fait un beau tour de cette fenêtre internationale. Et je pense qu'il est temps de parler sérieusement maintenant. Il est temps de passer à la minute Sportimize. Alors Alex, si j'ai bien compris, on part du côté de Barcelone pour cette minute Sportimize.
Tout à fait, on va aller au Camp Nou qui est en pleine rénovation, mais on va retourner un tout petit peu en arrière d'abord. Donc on sait le Barça a eu des problèmes financiers depuis 2 ans. Il y a un tas de parts qui ont été rachetées par des holdings mexicains, américains. Le Nou Camp, en tout cas sa rénovation cadre aussi dans un projet futur d'aller de nouveau grappiller plus d'argent. Mais en début de saison, le Barça n'était que la 13e équipe en vente d'abonnement. Donc les supporters n'adhèrent pas au stade olympique de Barcelone, même si dans les années 90, on a eu de très belles affiches, et on a eu de très beaux Jeux olympiques là-bas, mais les supporters n'adhèrent pas. Donc on a eu les premiers matchs de championnat où le stade était aux 3/4 rempli ou aux 2/3 rempli. Mais du coup, le Barça perd de l'argent. Et ils ont eu une bonne idée marketing il y a quelques semaines là-bas. C'est qu'ils vendaient des maquettes du Nou Camp. Donc, on a de toutes petites jusqu'à des très grandes, ça varie. Et ils ont en fait pris le gazon du stade pour l'inclure dans ces mini-maquettes. Et ensuite, ils les vendent. Il y a un petit magasin éphémère, un pop-up store, comme on dit, qui a vu le jour à côté du stade. Et ils vendent des maquettes entre 20 et 420 euros en fonction de la taille. Et donc, on peut se munir d'une maquette de l'ancien Camp Nou. Avec également ce gazon mythique, et ça reste un gazon mythique effectivement, ouais, mais toujours pas la différence, je peux mettre celui de mon jardin et le vendre, les gens ne le verront pas, mais ça se fait de plus en plus sur internet, et on avait vu aussi à Naples, quand ils ont été champions, des supporters prenaient des morceaux de terrain avec eux à la maison pour leur vendre sur eBay des 7, 8, 9, 900 euros par la suite. Donc ceux qui veulent, malheureusement sur internet c'est déjà sold out, mais il reste le pop-up store.
Le pop-up store, il faut vous rendre à Barcelone pour pouvoir acquérir une part du mythe, un morceau du mythe du Nou Camp. Il me semble qu'Arsenal avait peut-être fait pareil quand ils ont détruit Highbury. Enfin, ils avaient vendu une partie, mais c'est vrai que c'est une bonne idée.
C'est rigolo, il faut aller voir sur Twitter. Le problème du stade olympique aussi, c'est que le Barça vendait des places. Et en fait, le stade olympique, c'est un stade fait pour voir la piste. Mais en fait, sur les premiers rangs, c'était impossible de voir la pelouse. Mais on voyait absolument pas la pelouse. Et du coup, c'est compliqué. Enfin, il y avait des mecs qui ont acheté des tickets, qui ont filmé ça, parce que très en colère.
Ouais,
parce que c'est plus quand même pas donné d'aller voir Barcelone.
Ouais.
Non, tout à fait. Mais là, les prix sont moindres et le stade, même les abonnements ne se vendent pas. Donc,
Et ben voilà, une manière pour eux de se refaire une petite santé financière. Si vous voulez acquérir donc un morceau d'histoire, rendez-vous au Pop-Up Store de Barcelone pour acquérir un morceau de la pelouse. Merci Alex pour cette minute Sportimize. Et je vous propose maintenant qu'on fasse un petit tour, un petit point mercato. Ça y est, c'est terminé, quasiment terminé. On va parler de... C'est quasiment terminé, ouais, il reste quoi l'Arabie Saoudite qui a encore...
Qatar aussi.
Le Qatar. Alors le Qatar justement, ben voilà, on va avoir...
Turquie, Arabie Saoudite, Qatar.
On va commencer tiens par le Qatar et par un départ qui, je suis sûr, fera quelque chose à Thomas, peut-être pas pour la dernière saison et demie qu'il nous a livré, mais enfin Marco Verratti qui va quitter le Paris Saint-Germain après 10 années et pour rejoindre le Qatar. Au-delà de son départ, qui, comme je disais, est peut-être pas c'est pas une surprise, c'est pas une grosse perte si on se rapporte à ses performances les deux dernières saisons, je dirais. Mais est-ce que ça devient pas un petit peu régulier, récurrent avec le Paris Saint-Germain de pas savoir dire au revoir? Je pensais à Cavani, à Thiago Silva et maintenant à Verratti qui ont été trois joueurs hyper importants dans cette phase de première phase de lancement du Qatar à la tête du PSG. Et là, ça fait trois joueurs un peu mythiques, je dirais, qui n'ont pas le droit aux adieux qu'ils mériteraient.
Oui, en fait, je pense pas que ce soit un problème lié au PSG. Je pense que dans les très gros clubs européens, souvent, il y a souvent du mal à séparer des icônes du club.
C'est vrai que je vois mon petit club encore.
Ouais, non, mais quand je vois un peu les départs de Ramos, etc. En fait, bon, oui, Zidane a eu un très bel hommage, mais il y a beaucoup de grands joueurs dans les grands clubs qui n'ont pas eu les adieux qu'ils auraient mérités. Bah, parce qu'aussi, quand on est une icône, on a du mal à partir. Et je pense que Verratti, comme tout l'effectif du Paris Saint-Germain, aurait dû être... En fait, je pense qu'au lendemain du Camp Nou, l'effectif qui était traumatisé aurait dû être renouvelé à 50% et qu'on a traîné ses séquelles mentales pendant des années. Et Verratti en faisait malheureusement partie. Verratti, c'est un mec qui arrivait avec. C'était une énorme surprise. Hein. On se souvient le recrutement de Stein et puis avant, le petit mec de Pescara.
C'est ça, 19
ans. Et puis ça a été une énorme surprise. Parce que c'est le beau joueur. Mais c'est, en fait, c'était Verratti a comment est né 5 ans trop tard. Parce que je pense que dans le grand Barça et quand le foot de possession était encore dominateur, c'était parfait pour lui. Malheureusement, il arrive à maturité dans les époques du football de transition de Klopp et c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il n'a pas le profil. Bon, c'est quand même un joueur qui nous a fait vibrer. Hein.
Ouais.
Même avec, bon. Mais bon, la vie à Paris, hein, c'est ce que c'est.
La vie à Paris, c'est ça, ça lui montait la tête. Mais c'est vrai que voir un joueur qui fait... Alors, il y a des moments où c'est incroyable. On se dit, mais comment il fait pour... Il fait un petit pont, un 1-2 dans sa propre surface et avec un calme olympien, presque, il réussit à s'en sortir. Bon, d'autres fois, c'est plus périlleux, mais...
Mais c'est très intéressant ce que dit Thomas sur cet aspect mental et ce traumatisme. Parce qu'on en a parlé de Genk la semaine dernière ou la semaine d'avant. Est-ce que toi, tu préconises en tant que coach, justement, de... Et changer le coach, et changer une grosse partie de l'effectif. Et si oui, sur base de quoi l'effectif ?
Ben je pense, mais alors c'est compliqué parce qu'après la remontada, on peut pas vendre 20 joueurs, c'est impossible. Mais les cadres de cette équipe-là, il aurait fallu faire un grand changement parce qu'on a traîné ça comme un boulet pendant très longtemps. Et le Barça qui nous a fait la remontada a connu des remontadas. Même histoire, hein, même histoire. Ils ont gardé des mecs qui ont connu la Roma, on oublie Liverpool. Hein. Le match de la carrière d'Origi. Non, mais c'est...
Sur base de quoi, alors ? Fébrilité, attitude,
mais parce que je pense,
remise en question ?
Je pense qu'en fait, ça reste ancré mentalement en toi.
Et que tant que tu es dans cet environnement, en tous les cas,
c'est ça. C'est l'environnement
Thiago Silva a gagné avec des champions l'année suivante.
Ouais.
Et il a été très, très bon.
Et quasiment tous les coachs du PSG ont gagné
Après, donc. Mais oui, l'environnement te rappelle ça sans cesse. Unai Emery, l'année suivante, bah ouais, bah il arrive patatras, rebelote. Il faut... parce que, en fait, l'environnement fait qu'on va, tout ramener à ça, parce que c'est ton histoire au club. On ramène tout à
Et plus on s'en rapproche, enfin, dans le scénario d'un match, j'imagine que plus mentalement, et puis même dans les... Physiquement, le corps commence à se souvenir des traumas.
Marquinhos, ouais. Coupe du Monde, moi, quand je l'ai vu partir pour tirer le pénalty...
T'avais que c'était...
Bah, je suis pas... Non, mais je sais, mais... Enfin, on se dit, quand on connaît un peu le joueur, on se dit, bon, c'est culotté quand même.
Ouais.
Bon, après, il a levé la main, donc il faut le courage pour aller le tirer, mais...
C'est ça. Il y en a qui...
Mais c'est oui. Bon, Verratti, ça a quand même été... C'est 30 trophées, hein, quand même, faut pas...
Ouais.
Pas négligeable.
C'est pas négligeable. Mais c'est vrai que comme le PSG ne vit que par une potentielle victoire, au travers d'une potentielle victoire en Ligue des Champions, les 30 trophées... Aussi fabuleux soit-il, ils sont vite oubliés par les supporters, parfois un peu.
10 ans pour Chelsea, 15 ans pour Manchester City, pour gagner la première.
Pour gagner, ouais.
On est encore dans les clous.
C'est ça. Je ne sais pas si on a parlé longuement, peut-être pas assez, on va reparler de Romelu Lukaku. Donc à la Roma, c'est le bon... Il a le prénom pour jouer, en tout cas. Romulus, Rémus, Romelu.
Très bonne blague.
Est-ce que voilà, ça va être l'environnement parfait pour lui sous la houlette d'un coach qui est le plus particulier de tous les coachs peut-être. Hein. Mourinho, je veux dire par là qu'il
il le connaît,
il va pouvoir peut-être le lui sortir lui aussi. Est-ce que lui aussi il a pas un problème mental depuis quelques... Est-ce que la Coupe du Monde, la finale de la Ligue des Champions, où malgré tout et malgré lui le pauvre, il contre une frappe qui peut faire but pour son équipe. Bon, il est pas très bien placé, il est pas dans son match clairement quand il entre. Mais la Coupe du Monde surtout, il avait été, il était blessé aussi un peu,
il
passé
est victime
à côté.
De ses choix de... Ouais. Enfin, allez, il est victime de ses choix de carrière. Lukaku, pour un joueur de ce standing, il a fait énormément de clubs, il a fait beaucoup de clubs, ouais. Beaucoup de va-et-vient. Est-ce que Lukaku a déjà fait 3 ans dans un même club d'affilée, 3 saisons dans un... Je ne suis pas sûr, c'est à vérifier. Donc, ça reste un très grand joueur, mais peut-être qu'il... Enfin, un très grand joueur, j'ai dit un grand joueur, parce que si on galvaude un peu le truc très grand joueur. Mais peut-être un peu plus de stabilité lui aurait permis de... Il aurait dû s'installer à l'Inter. Peut-être qu'à l'Inter, il avait le potentiel, mais c'est aussi ses choix. Lukaku a fait des choix à un moment, il est à l'Inter, il est reparti. Il voulait revenir, mais en même temps, il a discuté avec la Juve. Et...
Mais il est très têtu aussi avec son Chelsea, hein. Ça fait... c'est pas nouveau non plus. Donc, sa carrière a été dirigée par ses affinités, ses goûts, ses envies. Et c'était peut-être pas du tout la meilleure au début. Donc, il a quand même réussi à s'en sortir une première fois, mais pas une deuxième.
Ouais. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est surtout ça qui est rageant. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'en sortir une première fois parce qu'il a eu un moment où il a semblé être cantonné dans le, on s'est dit, bon, bah, voilà, c'est une armoire à glace qui court très vite. Et puis, finalement, il a pas réussi à progresser autant qu'on le pensait. Et puis, si, il a réussi à passer ce petit cap. Et là où il aurait dû s'installer, et dans la durée.
Je trouve même qu'en Belgique, pendant très longtemps, vous avez été très dur avec Lukaku. Parce que bon, c'est quand même un profil des neufs comme Lukaku, il n'en existe plus beaucoup. Ok, en finale de Ligue des Champions, il merde un peu.
Mais, la Coupe du Monde aussi. Hein, donc.
Mais ça reste quand même un neuf avec des qualités rares qui existent. Les Allemands seraient contents, je pense, d'avoir Lukaku.
Ouais.
Je pense que les Allemands, ils seraient contents même d'avoir Yann Vertonghen là pour l'instant.
Est-ce qu'il y a un transfert?
Même George Likens, ils veulent bien. Là.
Un transfert qui vous a particulièrement marqué ou qui va être un plus pour une équipe
Moi, c'est pas un transfert, mais c'est le recrutement d'Anderlecht.
Ouais.
On a beau en rigoler, quand tu vas chercher des Dolberg, des Schmeichel, des Delaney, j'en passe, les Hazard, enfin le Hazard en tout cas, Thorgan.
Ouais, ça commence à être très sérieux.
C'est du sérieux. Et si tous ces joueurs se motivent entre eux pour encore réaliser quelque chose, pour moi, Anderlecht est un outsider très dangereux pour le titre.
Ah ouais. Oui, Anderlecht est placé. Ouais. J'écoutais un peu la tribune de la semaine dernière où on expliquait que les stats montraient qu'Anderlecht... Alors déjà, moi, je ne comprends pas. Les stats qui montraient qu'Anderlecht, en fait, ne devraient pas être premier, mais devraient être septième ou huitième. Parce qu'en fait, ils ont pas trop d'expected goals. Et puis, bon, ils auraient dû encaisser plus. Ben oui, ils ont un bon gardien. Mmh. Ils ont un attaquant efficace. Donc, ça aide.
Oui.
Donc, je ne comprends pas trop ce raisonnement. Anderlecht, aujourd'hui, est une équipe très, très sérieuse. Mon seul doute, j'ai un peu peur qu'ils changent le gardien. J'ai un peu peur que Schmeichel, Danois, Kart, Fredberg, qu'ils ne soient pas doublures. Je pense qu'ils ne doivent pas faire cette erreur, parce que pour ceux qui regardent la Ligue 1, Schmeichel à Nice, c'était pas
dans la sécurité sociale.
Mais à part ça, Hazard, Dolberg, Ritz, l'expérience de Ritz et Delaney, si Léoni continue, je le disais la semaine dernière, ça peut être très, même plus que ça. Enfin, je veux dire, mettez le 11 de Anderlecht face au 11 du top 6, bon ben...
Et puis, on le rappelle, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Alors, ouais, on ne sait pas qu'on... Enfin, en tout cas, toutes les autres équipes du top 6 belges ont des... À part le Standard, mais ont des... Enfin, si tant est que le Standard...
Top 6.
Non, mais non, dans l'esprit. Toutes ces équipes ont au moins 6 matchs à jouer. Et donc, ils sont jusqu'au mois de décembre. Et bon, certes, les points seront divisés, certes, tout ce qu'on veut. Mais voilà, une période pendant laquelle Anderlecht peut avoir un champ un peu plus tranquille. J'allais dire libre, non, mais plus tranquille. En tout cas, c'est le moment où il va falloir marquer les points.
Oui, attention, un gain de l'année passée n'est pas à exclure non plus
ouais.
Avec ce fameux champ libre. Mais non, ça se jouera surtout dans la tête et dans la gestion de l'effectif.
Et la dernière fois qu'Anderlecht est champion, c'est avec un jeu qui n'est pas très séduisant, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'on a cette année.
Bon, ben écoutez, on verra. En tout cas, ça reprend dès le week-end prochain la Jupiler Pro League avec
De toute façon, on très vite le sort parce qu'il y a un petit Anderlecht Bruges qui arrive sous peu.
C'est ça. Il va y avoir les premiers tests ce week-end à noter. Parmi les matchs importants, intéressants, Anderlecht donc se déplace à Courtrai, OHL la Gantoise, le club de Bruges reçoit Charleroi, l'Union contre Genk, ben voilà, samedi à 18h15, l'Union contre Genk, et le champion ira à Westerlo vendredi.
Même la Gantoise Charleroi, parce que Charleroi, en fait, quand on regarde les matchs, c'est pas mauvais,
ouais,
ça
ouais.
Manque de chance pour l'instant, et ça sera un bon crash test aussi pour la Gantoise, pour voir si après la trêve ils enchaînent.
Et le Standard, lui, ira se déplacer à Eupen, une équipe en forme, une équipe surprenante.
Continuer le naufrage.
La descente aux enfers, voilà.
Bon, ils ont quand même été recherchés Genepo. Il y a quand même 2-3 joueurs qui sont arrivés dernièrement. Espérons quand même qu'ils ouais. sortent la tête de l'eau.
Ouais. Pour le championnat belge, c'est mieux d'avoir un Standard.
Ça fait mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur. Ouais. En tout cas, bah, merci à vous deux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut Thomas, salut Alex.
Salut Sam, salut Thomas.
Bye bye.